Hey, salut tout le monde, c'est moi Alexa. C'est juste un petit truc avant que l'épisode commence pour vous indiquer que ce truc que vous allez écouter, comme vous l'avez vu dans le titre, bah, c'est mon avis à chaud après 2 jours d'analyse de la keynote Peak Performance qui s'est déroulée le 8 mars 2022. Désolé d'avance de mes points ou de mes opinions un peu trop, disons un peu trop brutes. J'ai analysé la keynote comme ça un peu trop rapidement. Donc voilà, donc je voulais quand même vous faire partager ça, puis bah voilà, puis aussi désolé quand même de la stéréo qui est un peu étrange. Bref, vous allez vous en rendre compte. C'est le premier podcast, on peut dire aujourd'hui que ceci est le premier podcast, à part pour la scène d'intro que je suis en train de faire, c'est le premier podcast à être enregistré entièrement en stéréo. Shout out à mon iPhone XR et à l'application Just Press Record qui m'a permis de faire ça. Allez, bonne écoute tout le monde! Salut tout le monde et bienvenue sur Lexaspheres, mon long perso où je vous raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, petit podcast très simple. Désolé, là. Petit podcast spécial, enfin pas tant spécial que ça, hein, mais bon, quand même un peu. Dans lequel je vais vous parler de la keynote d'Apple qui a eu lieu aujourd'hui, hein, le fameux aujourd'hui, le 8 mars 2022, désolé, je suis un peu pas là aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a eu lieu, effectivement, aujourd'hui, une petite keynote qui s'est appelée Peak and Performance. Donc, en gros, Peak comme un pic, hein, donc c'est-à-dire, mettons, un pic d'utilisation, bref, et Performance. Et, bah, je pense qu'elle méritait en partie son titre, cette keynote-là. La keynote était consacrée à l'iPhone SE 3, l'iPad Air 5, ouais, c'est ça, ainsi qu'à un nouveau Mac qui est lancé et un nouvel écran, voilà, qui accompagne ce fameux Mac. Bon, je vous le dis tout de suite, on va s'épargner la description du Mac et, enfin, la description, dis-je, de l'iPad Air 5. Ainsi que du studio display, du nouveau studio display de 27 pouces qu'Apple vient de lancer. On va s'épargner ça parce que ben, ça sert à rien. En tout cas, non, moi je vais plutôt recentrer ça. Peut-être, je sais pas si je vais en parler vu que je sais pas tant de choses à ce niveau-là. Mais ouais, peut-être que je vais parler du Mac Studio là, qui a été lancé. Bon, bref. Non, là on va parler du premier produit que je pensais qu'il allait être lancé et qui a été effectivement annoncé, l'iPhone SE 3. Alors oui, non content de proposer l'iPhone SE 2 en 2020, Apple riposte avec la troisième génération, avec la troisième itération de cette gamme, de cette lignée orientée vers un marché comme, disons, entrée de gamme, pas d'entrée de gamme parce que vous savez pour qu'il y a la puce, c'est entrée de gamme parce que le format de l'écran, mais pas tant parce que la puce. En tout cas, bref. Fait que l'iPhone SE 3, c'est pas compliqué. On a pris l'intégralité de ce qui fait d'un iPhone 13 ou 13 Pro, 13 Pro Max ou 13 Mini. Donc en gros, ils ont pris le soc, hein. Donc la puce A15 Bionic. Et ils l'ont planqué dans le corps de l'iPhone SE 2, qui lui-même est le corps de l'iPhone 8. Voilà. Fait que bon, ils réutilisent le même châssis. Bon, juste c'est un peu trop petit. 4,7 pouces, je trouve, pour mes mains, c'est un petit peu trop petit. Ça marche, hein, mais c'est un peu trop petit. J'aime mieux la grandeur et la l'impression de classitude qu'offre l'écran de l'iPhone XR. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait qu'on est sur un écran de 4,7 pouces sur l'iPhone SE 3, dans le corps de l'iPhone 8, donc en gros, en acier et alu, je crois, ou en verre et alu, si je dis pas de bêtises. On a cette fois du Ceramic Shield, donc ça veut dire qu'en gros, ça, c'est à peu près sur l'iPhone 12. Hein. C'est un revêtement qui est dans l'écran, enfin, c'est un verre qui est un peu différent, qui est pas mal plus solide, à ce que selon Apple dit, 4 fois plus solide que n'importe quel autre écran de téléphone, à voir et à tester. Donc on a ça et sur l'écran et sur l'arrière, fait que c'est cool, ça veut dire que si jamais vous échappez votre téléphone et que vous n'avez pas d'étui protecteur dessus, bah, ça le pètera pas, ou du moins pas tant que ça, vous avez pas mal moins de chances de vous retrouver avec un téléphone en réparation maintenant, donc ça c'est pas mal. Donc il a la puce A15, voilà, donc il a la même puce que la série des iPhone 13, qui est pas un processeur de merde, vraiment pas. La puce A15, c'est pas le plus puissant des CPU qu'on trouve sur mobile, mais quand même l'un des plus puissants CPU qu'on trouve sur mobile. C'est quand même un processeur de fou furieux. Gravé en 5 ou 7 nanomètres, je crois, fait que ça, c'est cool. Niveau architecture, ça, c'est pas mal. On est toujours sur du Big Little, donc avec deux gros cœurs qui sont optimisés pour les tâches lourdes et quatre cœurs moyens qui sont plus des gros cœurs de haute performance et quatre petits cœurs d'haute efficacité qui sont là pour épauler justement les deux premiers, avec un GPU à 4 cœurs. Ce qui est pas mal, hein, évidemment, l'Apple GPU, on sait de quoi il est capable. Pour avoir fait tourner des jeux comme Fortnite et tout, on sait que c'est pas mauvais. Voilà, on a le Neural Engine à 8 ou 16 cœurs, je crois. Donc c'est presque le même que dans les processeurs M1. Donc c'est cool, c'est super bien. On a cette fois, toujours pareil, connecteur Lightning. Voilà, haut-parleur stéréo, hein, comme ce qui était le cas sur l'iPhone 8 et le SE2. Et il offre maintenant l'enregistrement stéréo. Alors, je sais pas si l'iPhone SE2 l'offrait déjà, l'enregistrement stéréo, mais je sais par contre que l'iPhone 8, lui, ne l'offrait pas. Voilà, et si je me trompe pas, je pense que même par une malencontreuse erreur de ma part, vous m'entendez actuellement en stéréo avec mon téléphone. Je vous avais dit que dans mon dernier podcast, dans le dernier Geek mensuel, je vous avais dit que ça allait arriver à un moment donné. Bref. Fait qu'on a ça. Toujours un connecteur Lightning, pas d'USB-C, à part quand est-ce que vous allez vous mettre à l'USB-C. Tout le monde vous réclame en USB-C. Même vos Mac, vos iPads, même l'iPad mini de 6e génération est lui-même en USB-C. Même l'iPad Air est en USB-C. Pourquoi vos téléphones ne sont pas en USB-C? C'est la moindre étape qui vous reste. À la limite, gardez l'iPod en Lightning, mais mettez vos téléphones en USB-C, par pitié. En tout cas, bref. Histoire de juste d'être harmonisé. Juste ça ferait de l'harmonisation de gamme. Vous avez pas idée. En tout cas, bref. Niveau batterie, je sais pas quelle puissance est de cette batterie. Je pense qu'on tourne autour des 1900 ou 2000 mAh. Je peux pas dire ça avec certitude, hein. Je l'ai pas vu, j'ai pas eu les chiffres, j'ai pas vu le nombre de mAh de la batterie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Apple nous promet jusqu'à 15 heures de lecture vidéo, jusqu'à 10 heures de lecture vidéo en continu. Donc ça veut dire que on a jusqu'à 50 heures de lecture audio, ce qui est bon, ce qui est cool, mais bon. Je suis pas non plus tant fou que ça. J'ai pas vu le temps de conversation, le temps qu'on a en conversation et le temps en veille et tout. Mais ça doit être autour d'à peu près, 20 heures, entre 16 et 20 heures probablement, de temps de conversation téléphonique. Ah oui, puis j'oubliais. Le téléphone inclut aussi de la 5G. Alors, c'est pas de la 5G millimétrique. Ça, on attend beaucoup que ça arrive. Chez nous, par exemple, je peux dire que, en tout cas, de mon côté, à Saint-Eustache, enfin dans les Laurentides, dans mon coin, à moi, me concernant, la 5G n'est pas encore tout à fait arrivée. Hein, et c'est vraiment pas. On n'est pas proche non plus d'avoir des ondes millimétriques chez nous. Ça, c'est pas possible. On a ce petit truc-là. Je peux pas vous dire avec précision beaucoup de données. Encore une fois, j'ai ça à chaud. J'ai écouté la conférence aujourd'hui. Pour vous donner une idée, le podcast est enregistré le 8 mars, à peu près 3 heures après la conférence. J'ai pas tout retenu et je sais pas tout. Donc ça se peut que j'y ait une update qui sorte dans les prochaines semaines liée à ce podcast. Je vous en ferai part sur Twitter. Donc c'est ça. Mais ce qui est plus drôle, c'est que j'ai dans l'Apple Store, quand j'ai été voir la fiche technique de l'iPhone SE 3, je l'ai comparé avec le modèle que j'ai moi, c'est-à-dire l'iPhone XR, donc un téléphone qui date de 2018. Et voici ce qui en ressort. Déjà, on a les mêmes capacités de mémoire, 64, 128, 256, que ce soit sur l'iPhone XR ou l'iPhone 8, XR ou l'iPhone SE 3. On a 64, 128, 256 gigas de stockage. On n'a pas le même nombre de RAM. On passe de 3 à 4 gigaoctets de RAM. Je sais pas si, encore une fois, Apple ne communique pas sur ça. L'iPhone XR, on est sur une batterie de 2942 mAh, pour vous donner une idée. Ça, c'est juste la batterie de base du téléphone. La batterie La Smart Battery Case, je crois, selon mes calculs, qu'elle fait aux alentours de 2200, je crois, milliampères heure. Donc, ouais, donc quelque chose comme ça. L'iPhone SE 3 offre jusqu'à 15 heures de lecture vidéo. L'iPhone SE 3 offre 15 heures de lecture vidéo standard. Le XR, quant à lui, offre 16 heures. 16 heures de lecture vidéo. Moi, j'ai pas de chiffres sur la lecture en continu, parce que je suppose qu'à l'époque du XR, cette valeur n'était pas comptée dans les tests. Mais c'est ça. En lecture audio, l'iPhone SE 3 offre jusqu'à 50 heures, ce qui ressemble à peu près, hein, presque trait pour trait, au chiffre de l'iPhone 8, qui offrait lui 50 heures, je crois aussi. Donc le SE 3 offre jusqu'à 50 heures de lecture audio, l'iPhone XR, lui, offre jusqu'à 65 heures. Est-ce que c'est bon pour vous? 65 heures de lecture audio. En même temps, vous dites, ouais, c'est une batterie qui est plus grande, plus grosse aussi, c'est une 2900, contrairement à l'iPhone SE, qui est probablement une plus petite. Ouais, c'est vrai, mais je suis un peu déçu, honnêtement. Je suis vraiment un peu déçu du SE 3. Après, j'ai hâte de voir les tests et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, j'ai plutôt un avis dubitatif. Je me dis, bon, ça en fait un bon téléphone qui va rester à jour bien souvent, puis qui aura une bonne batterie, puis qui a un écran moins vorace à alimenter que l'iPhone 13. Qu'il n'y a pas autant de caméras. Sur le SE 3, on est sur une caméra grand angle, comme l'iPhone 8, comme l'iPhone 10R et tout ça. Donc c'est cool, mais bon, voilà. Donc je me dis, ouais, bon, c'est cool, ça va en faire un bon téléphone un jour qui va tenir dans la durée, c'est pas faux, hein. Mais reste que je suis quand même assez déçu. Je m'attendais à plus de ça de la part d'Apple. Quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Juste 50 heures de lecture audio? Juste 50 heures de lecture audio? Les gars, on rappelle que c'est un iPhone SE. Donc techniquement, ça devrait être conçu pour tenir dans la durée pour n'importe quelle personne, que ce soit quelqu'un qui fait du power using de son téléphone jusqu'à l'utiliser jusqu'à 1%, jusqu'à la mort, lol. Ou que ce soit l'autre extrême atypique qui, sa batterie peut tenir près de 5, 6, 7 jours parce qu'il utilise trop peu d'applications, parce qu'il n'y a presque aucune donnée et tout. L'iPhone SE se doit d'être polyvalent. Je m'excuse, mais l'iPhone SE se doit d'être polyvalent à moindre mesure. Après, si on regarde la gamme d'Apple, si on veut un téléphone polyvalent, on va plutôt s'orienter vers l'iPhone 11, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, le 13... ces téléphones-là, ouais, ok, je peux comprendre, mais en rapport qualité-prix, Apple aurait dû, quant à moi, augmenter un peu plus la taille d'écran, quitte à prendre le même design que ce qu'ils ont fait sur l'iPhone 12 avec les bords plats. Donc, ouais, ils auraient dû faire ça, quant à moi, augmenter un peu plus la taille d'écran. Je sais pas comment ils auraient pu faire ça, mais ils auraient pu augmenter un petit peu, hein, histoire que ça vale plus le coup. Puis niveau batterie, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une 2200. Après, peut-être que c'est une 2200. Comme j'ai dit, là, j'ai pas de chiffres. Mais peut-être que c'est une 2200 qui est dans ce téléphone-là. Si c'est ça auquel cas, bah ok, parfait, ça en fait un bon téléphone, mais je sais pas, quoi. Je suis assez déçu. Je pensais qu'elle allait plus gâter les gens de cette cible-là. Je pensais qu'il allait plus les gâter que ça, mais non, finalement, Apple semble leur dire, techniquement, de manière détournée, hein, si j'ai bien compris le message lancé par l'iPhone SE 3, c'est un téléphone qui va vous tenir dans la durée, qui va être super bien, mais par contre, le plus possible, achetez un téléphone un peu plus puissant. Ouais, mais si on regarde ça, ça vaut pas le coup d'acheter un téléphone plus puissant, parce que l'iPhone SE 3 se sert de la puce de l'iPhone 13. Autrement dit, réfléchissez si vous comptez vous acheter l'iPhone SE. Si vous comptez vous l'acheter, bah cool pour vous. Ça va vous faire votre première expérience iOS ou un téléphone top budget, on va dire, à moindre coût, qui va tenir dans la durée, qui va être puissant, qui va avoir Touch ID, tout ce que vous avez besoin. Mais puis qui va tenir surtout les mises à jour, hein. On rappelle qu'il va être équilibré sur iOS 15.3, à l'heure actuelle 15.3.1 même, je crois, c'est pas plus. Un téléphone qui est sur une mise à jour très récente, une version très 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 récente de l'iPhone, du système iOS. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu déçu, je l'avoue. Pas que je le désirais, loin de là, mais ça me confirme encore plus que le XR que je possède peut encore très bien faire l'affaire, au moins pour 3-4 ans, au moins pour 3-4 ans de suite, voire peut-être plus, honnêtement. Je suis désolé, mais quant à moi, j'achèterai pas le... Déjà parce que j'en ai pas l'utilité, puis parce que je suis assez déçu, je n'achèterai pas l'iPhone SE 3. Par contre, je le conseillerais peut-être à quelqu'un qui veut un téléphone qui marche. Quand j'entends parler de téléphone qui marche, j'entends parler d'un téléphone pas trop grand, pas trop petit, puissant, qui est capable de tenir dans la durée, qui est pas mal, qui fait le... En gros, un téléphone qui fait téléphone, quoi. Donc, un téléphone qui permet d'appeler et tout. Donc, ouais. Donc, pour ces usages-là, je le conseillerais peut-être. Pour des usages plus poussés, peut-être s'orienter vers un iPhone 12 ou un iPhone 13. Peut-être même limite le 11, hein. Même limite le XR. Le XR avec la Smart Battery Case, c'est le meilleur combo, honnêtement. Donc, ouais. Donc, c'est... En gros, c'est ça. Bon, fait que restez au courant sur ce podcast-là. Je vous informe quand je ferai une update sur le podcast en question, quand j'aurai plus d'infos. Donc ça, c'était pour l'iPhone SE3. C'était un beau bordel, mais voilà, c'était pour le SE3. Bon, après, il y a eu l'iPad Air 5. L'iPad Air 5, on s'en fout un peu, parce que ben, les tablettes pour les non-voyants, ça sert à rien pantoute. Mis à part que... Ouais, bon, ok, ouais, ouais, ok. L'iPad Air 5 est avec la puce M1. Voilà, c'est dit. Il marche avec la puce M1. Donc, la même puce que dans les Mac, la même puce que dans les iPad Pro, il marche avec la même fucking puce que ces tablettes-là. À quoi ça sert? Je sais pas. Les processeurs A faisaient très bien l'affaire. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est un signal qu'Apple nous envoie qu'un jour, tout le monde, que ce soit des téléphones, des tablettes, des trucs comme ça, vont utiliser des processeurs M? Bah, peut-être, hein. Peut-être bien. Pour l'instant, c'est pas ce que j'en ai capté. Donc c'est ça. Après ça, on a eu donc le Mac Studio. Alors ça, c'était vraiment une rumeur que moi, perso, je croyais pas tant. En gros, ce que la communauté des Apple Leaks disait, c'est qu'il y aurait un hypothétique Mac qui se placerait entre les iMac, les Mac Pro et tout ça, que ça serait un bureau ou voire même un portable qui serait puissant, qui serait alimenté par la puce M1 Max ou M1 Pro, qui serait un peu une espèce d'alternative un peu entre le Mac Pro et l'iMac. Apple a répondu en disant ben nous on lance le Mac Studio. Et en gros, j'ai pas trop compris l'histoire. Mais il se place entre l'iMac et le Mac Pro. Il se place au-dessus du Mac Pro, je sais pas, j'ai pas trop compris le délire. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ils ont Apple, ils ont en même temps avec ce qui se passe récemment, on peut pas leur en vouloir, mais bon, je m'attendais à plus de créativité. Ils ont connecté deux processeurs M1 Max ensemble et ils ont appelé ça M1 Ultra. Ouais, M1 Ultra. Ils auraient pu appeler ça M1P ou un truc comme ça, un peu plus percutant. Mais non, M1 Ultra. Bon, voilà. Donc, sur ce processeur M1 Ultra, ben, pour compliquer, c'est deux M1 Max. Donc, déjà, la puce M1 Max, c'est déjà un processeur de malade mental. Honnêtement, c'est un processeur de fou furieux. C'est le processeur que vous trouvez dans les MacBook Pro, de 2021, si ma mémoire est bonne, ouais. Ouais. Donc, c'est pas n'importe quel processeur, hein. C'est un truc qui est relativement bien et qui, surtout, ben, permet d'avoir une très forte puissance avec une consommation d'énergie moindre. Ce qui est pas si mal que ça, vraiment. C'est pas si mauvais que ça. Fait que ça, c'est cool. Et dans ce processeur M1 Max, ils ont fait une espèce de connecteur comme ça. J'ai pas trop compris l'histoire. Bref, ils ont fait une espèce de connecteur comme ça qui s'appelle le Fusion. La Fusion Ultra ou l'Ultra Fusion. Et ce connecteur permet de connecter ces deux processeurs M1 Max ensemble, ce qui donne le processeur M1 Ultra. Ce processeur est un beast en termes de puissance, et en termes de calcul et de rendu et de tout ce qu'il est capable de faire. Et voilà, pour vous donner une idée, ça combine déjà que le M1 Max avait 10 cœurs, ben voilà, vous faites x2, voilà, 20 cœurs. Vainqueur de processeur. Apple a fait son premier processeur à 20 heures. Vainqueur de CPU uniquement pour l'UC. Hein. Uniquement pour le CPU. Pour le GPU, on passe à, je crois, 16 cœurs, je crois, pour le GPU. Puis, un nombre de fous pour le processeur, pour le Neural Engine. Je ne saurais pas trop vous dire parce que j'ai pas trop non plus retenu. Oui, c'est mon avis à chaud. Hein. C'est mon avis à chaud sur la keynote. Bon, en tout cas. Fait que, en gros, ça va être une machine pas mal. Alors, ne pensez pas vous la procurer. C'est pas du tout orienté au grand public. Vraiment pas. vraiment pas. C'est orienté pas mal studio d'animation, de production, de design et compagnie. Bref, en gros, c'est des grands ou des personnes ou des entreprises qui ont besoin de puissance, de calcul et de tout, et de grosses puissances de machines à un moindre prix avec une moindre consommation énergétique. Voilà. Ça, c'est dit. Et ils ont lancé un nouvel écran qui est l'Apple Studio Display. Probablement qu'ils l'ont appelé Apple Studio Display 2022. Donc, un écran de 27 pouces qui, lui aussi, est alimenté par la puce A14, A15, je crois. Je ne sais plus trop. Autant vous dire que l'écran, je m'en fous un peu. Hein. Voilà. En gros, je m'en fous un peu. Donc, désolé, ce podcast est un peu fourre-tout, honnêtement. J'ai essayé de vous résumer ça un peu comme ça. Bref, je sais pas si ce podcast-là va finir en ligne, mais si oui, tenez-vous au courant, parce que dans quelques semaines, probablement, il y a les premiers tests qui vont sortir avec toutes les fiches techniques, avec tout ça, et je ferai un podcast qui vous résumera l'ensemble de ces données-là sur l'Exosphere. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Moi, une seule chose, enfin plusieurs choses. Premièrement, si vous voulez communiquer avec moi, c'est par mail, donc lexaspheres@gmail.com et voilà, lexaspheres@gmail.com. Donc c'est par là que vous pouvez me communiquer vos petites idées, vos trucs, tout ça. Après ça, voilà, sinon c'est par le Twitter, hein, twitter.com/lexaspheres. Et puis, qu'est-ce que je vous dis? Et si je vous disais que je retravaille seulement sur la page Facebook? Ouais, finalement, j'ai reviré de mon fusil de bord. Je retravaille sur la page Facebook de Lexaspheres. Donc voilà, donc je vous invite à aller rejoindre la page Facebook, facebook.com/lexaspheres. Encore une fois, c'est par là que vous pouvez retrouver l'ensemble des publications du site. C'est le réseau social sur lequel je suis le moins actif, en dessous de Twitter. Donc si vous voulez me tenir au courant ou me faire parvenir des infos concernant les nouveaux Mac et tout ça, passez en premier par Twitter, c'est par là que pour moi ça va être plus simple à prendre, et éventuellement par la page Facebook. Hein, voilà. Éventuellement par la page Facebook, si vous y tenez vraiment, voilà, ça va être là. Bon. Donc merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Lexaspheres et on se revoit soit une à deux semaines plus tard, une fois que les tests et les fiches techniques seront sortis, ou dans l'émission du samedi 12 je crois. Ouais, du samedi 12 mars des Fous de l'Antenne, ou dans le prochain Geek mensuel. Allez, ciao tout le monde, à plus sur Lexaspheres. I still feel suspended.